fraternelle, communion, commun, contribution, don, prendre part, communication. En fait, on a regardé ensemble ce qui est la base de la koinonia. Et d'ailleurs, nous avions introduit le sujet, et je penserais bien de regarder dans le psaume 133 à nouveau, parce que c'est un des psaumes qui parle justement de cette bénédiction de la communion. Nous allons le relire, si vous voulez bien, puis on regardera d'autres textes, évidemment. Mais c'est écrit « Cantique des degrés de David, oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur sa tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'huile est le symbole du Saint-Esprit, la communion fraternelle est liée à l'action du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit dans nos vies, et le rafraîchissement, la rosée, aussi l'Esprit, la vie de l'Esprit en nous et la parole de Dieu, qui fait que nous nous rapprochons du Seigneur, et plus nous nous rapprochons du Seigneur, plus nous nous aimons les uns les autres. Alors, on a déjà vu cela ensemble, on ne va pas y revenir en détail, on a vu ce qu'est la communion de Dieu qui nous amène à avoir la communion les uns envers les autres. Prions s'il vous plaît. Notre Père Céleste, nous te remercions de placer plusieurs textes sous nos yeux ce matin afin d'apprendre à vivre de toi et à refléter ce que tu désires que nous reflétions, ton amour, l'amour que tu as placé toi-même dans nos cœurs, l'amour de Christ, dans toute sa hauteur, profondeur, longueur, largeur, et de l'expérimenter jour après jour à tes pieds, et que ça puisse déborder dans nos vies pour les autres, et ainsi être une bénédiction pour les autres. Merci de cette communion, nous a été donnée gratuitement par Jésus-Christ, lavé par son sang. Et aussi, cette communion est un don de l'Esprit dans nos vies pour continuer à t'aimer, mais aussi à vivre ensemble et à nous aimer les uns les autres. Merci de te glorifier ce matin, de nous aider à faire silence dans nos cœurs. Tu vois tous les bruits qui peuvent nous entourer dans nos propres vies, nos fardeaux. Nous prions, Seigneur, que nous fassions silence afin de t'écouter à toi et de te glorifier. Amen. Alors ce matin, on va regarder ensemble ce que sont les résultats ou les fruits de la koinonia. On a vu ensemble que la koinonia, c'est avec Dieu, par le Saint-Esprit. On va regarder maintenant le fruit de la koinonia qui est l'amour dans nos cœurs et notamment l'amour les uns vers les autres. Et j'aimerais qu'on puisse regarder, bien-aimés du Seigneur, en 1 Corinthiens chapitre 13, un chapitre fort connu qui décrit, n'est-ce pas, comme une rose avec des pétales extraordinaires. Et quand on analyse ce texte, on n'a pas envie tellement de le décortiquer parce qu'il fait un ensemble comme une fleur de toute beauté dont la beauté serait enlevée si on la dépouillerait pétale après pétale en quelque sorte. Mais tous les aspects ici sont comme un diamant avec des facettes, n'est-ce pas, extraordinaires qui nous décrit l'amour de Dieu dans nos vies. La Bible dit que l'amour est patient. Alors moi, je l'ai expérimenté hier soir, puisque mon épouse est allée à l'aéroport me chercher alors que j'étais à la gare. Et j'ai dû attendre en tout, pour des raisons de circonstances, tenez-vous bien, 2h15. Et je me dis, Seigneur, là, je ne m'énerve pas, je ne m'irrite pas et je ne me mets pas en colère. Et j'ai gardé l'amour de Dieu dans mon cœur. Quand ma femme est arrivée, et Laurie et Adria et Christian sont venus enfin me chercher, j'avais l'amour et la joie du Seigneur et la paix de Dieu. Je me suis dit, c'est le moment de mettre l'amour de Dieu en pratique. L'amour est patient. Alors, jusqu'à quel point on est patient les uns vers les autres? On est impatient peut-être que des choses changent dans l'Église. On est impatient que tel frère ou telle sœur change. Il a tellement besoin, mais nous aussi. Et la grâce de Dieu dont on a besoin dans nos vies, mais les autres aussi en ont besoin. Nous avons besoin de voir la patience dans nos vies les uns vers les autres. La patience est un fruit de l'amour dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas changer les personnes. Nous ne pouvons pas changer les circonstances. Mais nous pouvons changer notre attitude intérieure et laisser la patience vivre en nous. Amen. Oh là là. Amen. C'est un peu meilleur là. Alors la Bible dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. C'est merveilleux quand l'Église s'aime et que les frères et les sœurs sont pleins de bonté envers les autres. C'est la charité en action. C'est de montrer la bonté de Dieu dans des actes, dans des choses très pratiques, et de voir que l'Église s'aime et que l'amour est réel les uns vers les autres. L'amour n'est point envieux. Ici, on pourrait dire que l'amour n'est point jaloux. Alors, un tel a un don, moi je voudrais avoir son don, un tel a telle chose, ou possède telle chose, ou un tel diplôme. Non, il n'y a pas de place pour la jalousie. L'amour, ça consiste à se réjouir au contraire de ce que les autres ont, de ce que les autres font, de ce que les autres possèdent, de ce que les autres ont comme talent ou don, parce que l'amour n'est point envieux, il n'est point jaloux. Et la Bible dit, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Alors lorsque nous avons tendance à nous enfler, un peu comme la grenouille, vous savez, tôt ou tard, elle éclate la grenouille, si elle s'enfle. Eh bien, Dieu permet qu'il y ait un cher frère ou une chère sœur qui prenne une petite aiguille du Seigneur, juste pour appuyer un petit peu au bon endroit, pour que justement l'orgueil se désenfle, n'est-ce pas, et qu'on reste toujours humble. Et Dieu utilise les frères et sœurs. Quelqu'un a comparé un peu les cailloux au fond du torrent, n'est-ce pas, polis par les années, les décennies, peut-être les siècles où est passé, il y a eu toutes sortes de choses, et les cailloux semblent même sous l'effet, n'est-ce pas, du soleil, réfléchir la lumière et être là comme s'ils ont toujours été là, et ils sont polis, mais vous savez, avant d'arriver là, ils ont été éprouvés, puis peut-être ils se sont polis les uns avec les autres. Alors des fois, nous trouvons que le contact avec certains est un peu difficile, c'est un peu s'exposer à du papier sablé, n'est-ce pas, et ou une râpe, et parfois les râpes sont un peu difficiles à n'est-ce pas, à s'y frotter, mais le Seigneur permet cela. Alors vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes une église composée d'imparfaits, et parfois nous nous frottons les uns aux autres, mais si nous acceptons de nous frotter, il y a peut-être quelques aspects de nos caractères qui vont s'arrondir, on va arrondir les angles, et ainsi on va apprendre à s'aimer les uns les autres. Dieu est amour et nous demande d'apprendre humblement à vivre ensemble. La Bible dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour, la communion fraternelle, c'est un échange honnête, transparent. Ce n'est pas couvert d'une certaine, on y reviendra, d'hypocrisie qui cacherait vraiment le cœur réel de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. L'honnêteté, l'amour ne fait rien de malhonnête, ça veut dire qu'elle ne dit rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle dit... L'amour pousse nos cœurs à dire exactement ce que nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous vivons. C'est une honnêteté devant Dieu, c'est une honnêteté aussi devant les autres. Elle ne cherche point son intérêt. L'amour n'est point égoïste. Alors je vais taquiner un peu les jeunes qui étaient chez nous hier soir. Moi je suis arrivé tard, vous avez compris. Il y avait tout un groupe de... Et ce matin ils ont fait le ménage. Mais j'ai remarqué que certains étaient plus zélés que d'autres. Et je me suis dit, c'est l'égoïsme chez les autres, où ils ont envie que les autres fassent le travail. Vous savez, Dieu nous teste dans les moindres choses. Les petites choses dans lesquelles nous vivons quotidiennement démontrent notre réel caractère. Si nous vivons pour les autres, ou si nous sommes des égoïstes, est-ce que c'est d'abord les autres qui passent en premier, ou est-ce que c'est soi-même? Est-ce qu'on cherche son confort en premier, ou on cherche le bien-être de l'autre? Dieu est là, et ce que nous cachons, ce que nous voulons vivre, n'est-ce pas, dans notre propre chair, Dieu, lui, veut avoir la porte ouverte et travailler dans les moindres détails de notre vie. Et l'égoïsme est un péché. Il y a de la beauté à aimer et à s'oublier soi-même. L'amour ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Bon, alors là, les tempéraments colériques, ils en prennent un coup, parce que l'irritation est tellement facile, n'est-ce pas? Il y a tellement des caractères soupolés. Eh bien, il faut apaiser, il faut baisser le feu. Parce que quand ça déborde, hier ou ce matin au petit déjeuner, un frère bien-aimé avait laissé une grosse casserole de lait. Quand j'arrive à la cuisine, ça débordait partout. Parce qu'on avait oublié de retirer la casserole sur le feu, n'est-ce pas? C'est ça, quand ça déborde, et ça fait des dégâts un petit peu. Bon, c'est réparable rapidement, mais des fois l'irritation provoque des dégâts qui sont difficiles à arranger. Ils ne soupçonnent point le mal. Ça, c'est intéressant parce que dans l'original, ça veut dire de ne pas comptabiliser le mal. Ah oui, toi, l'autre jour, tu ne m'as pas dit bonjour. Toi, l'autre jour, tu m'as fait la tête, je ne sais pas pourquoi. Toi, l'autre jour, tu m'as blessé par des paroles. Toi, l'autre jour, et ainsi, voilà, on a une liste, et ce n'est pas du tout l'amour, ça, hein, qui comptabilise le mal qu'on nous a fait. Je ne te pardonne pas parce que tu ne m'as pas demandé pardon. Ça, c'est comptabiliser le mal. C'est d'avoir un cahier dans nos cœurs et nos pensées qui enregistre toutes les blessures sans jamais pardonner. Et qui ainsi comptabilise le mal qu'on nous a fait sans amener ces choses-là au pied du Seigneur pour éviter l'amertume, la rancune et parfois le renfermement en soi-même. Alors la Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour aime la vérité, donc il parle selon la vérité, il agit selon la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il croit tout dans le sens qu'il ne soupçonne pas toujours chez l'autre le mal, mais il est positif, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties sont abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Vous savez, la vraie qualité d'une vie d'église, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors je vais vous raconter dans ce message quelques anecdotes, si vous me permettez. Une première anecdote que j'aimerais vous donner. Quand j'ai fait mon service militaire, je n'ai pas tellement aimé ça. À Besançon, exactement, ce n'est pas la ville, mais c'était l'armée. Et j'étais influencé par mon père qui a été prisonnier de guerre, qui était antimilitariste. Donc pour lui, l'armée, c'est la guerre, et la guerre tue, et puis etc. Donc il a souffert, et donc j'ai boycotté l'examen pour être officier. Je me suis retrouvé dans une compagnie de combat, etc. Bon, ce n'était pas facile. Mais à un moment donné, mon capitaine a compris que je ne ferais pas un bon soldat. Alors j'étais photographe, décorateur, étant architecte de métier. Et finalement, on nous a demandé quelques-uns de décorer un immense hangar, ou salle plutôt, pour la fête des officiers. Et on a dû avoir toutes sortes d'idées et d'imagination avec un budget très faible. Et alors chacun avait une petite part. Puis moi, j'ai eu l'idée de construire une fontaine. Alors j'ai récupéré des grandes cannes à la cuisine. Alors j'ai récupéré un soudeur, une quarantaine de personnes qui travaillaient là. On a fait toutes sortes de choses, un faux plafond, un ballon. En fait, on avait plein d'imagination. Mais j'ai fait une fontaine. Le principe de la fontaine, c'était de récupérer ces boîtes. On les a soudées ensemble en couronne. Alors l'eau allait par-dessus. Et le principe, c'était que, c'est tout simple, je vais vous dire, c'est que chaque gobelet, enfin chaque canne, chaque boîte à conserve, qui était des grosses cannes, devait être remplie pour remplir les suivantes, etc. Puis un petit moteur, un petit pompe à eau, et on revenait avec un petit éclairage. Ah, les officiers, c'était extraordinaire. Ils n'avaient jamais eu, avec d'autres collègues, bien sûr, une décoration aussi grande, etc. Et moi, j'avais même refusé d'aller au bal. Mais bon, ceci dit, ça, c'était des convictions de jeunesse. Mais je me suis dit, c'est une belle illustration de l'amour dans l'Église. Si chacun est rempli d'amour, on peut aller prendre un peu d'oasis d'amour dans le débordement que chacun a, parce que Dieu veut nous remplir chacun. Êtes-vous venu ce matin avec l'amour de Christ? Je ne dis pas que vous êtes venu parce qu'il fallait venir à l'Église. D'abord, vous avez l'amour de Christ en vous, et vous avez l'amour pour les frères et sœurs. Et les frères et sœurs ont le droit d'aller puiser dans votre cœur cette source d'oasis qu'est Jésus-Christ en vous, pour faire du bien aux uns aux autres. Vous venez à l'église non pas toujours pour recevoir, mais pour donner, parce que l'amour de Christ déborde en vous. Avez-vous une bonne pensée envers un frère et une sœur? Avez-vous prié pour un frère et une sœur cette semaine? Avez-vous un geste d'amour, une action, ou une parole, ou un mot d'encouragement? Ce matin même, à la fin du culte, est-ce que la communion fraternelle va être réelle entre nous, parce que Christ est la source, et parce que nous débordons d'amour, alors on a envie de s'aimer les uns les autres, parce qu'on est attaché à la source? Est-ce que l'amour de Christ coule dans votre cœur? Est-ce qu'il déborde pour faire du bien à quelqu'un d'autre? C'est ça, cette fontaine d'amour que Dieu voudrait avoir dans nos vies. Mais vous savez, la Bible dit qu'on doit s'aimer les uns les autres. Et l'apôtre Jean, à la fin de sa vie, paraît-il, était porté par des serviteurs, des frères, qui l'amenaient d'église en église, et il prêchait toujours un même message. Aimez-vous les uns les autres. C'est tout le résumé. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. C'est si simple, on connaît tellement cela, mais est-ce qu'on le pratique vraiment? Et la Bible dit, n'aimons point en parole, mais en action et en vérité. Alors voyez-vous, la communion, c'est la communion avec Dieu, c'est la communion fraternelle, mais le deuxième aspect, le premier aspect que j'ai voulu souligner, c'est la charité, c'est la libéralité. Vous aimez Dieu, vous aimez les autres, vous allez donner à Dieu. Je dis bien que vous n'allez pas donner à l'Église, vous allez donner au Seigneur, parce que le don se fait devant Dieu et parce qu'on donne en premier lieu à Dieu. Et la Bible dit ici, c'est étonnant, le texte koinonia, qui d'être ensemble, et je pense que nous, je fais une petite parenthèse, nous avons vraiment besoin d'apprendre, nous les Français, entre guillemets, et vous pouvez vous y mettre dedans si vous n'êtes pas français, on a une tendance à vivre un peu chacun pour soi. Mais il y a des sociétés dans le monde qui vivent beaucoup plus en communauté, qui ont tout en commun. Vous savez, les premiers disciples, ils avaient tout en commun. Et c'est l'idée de la koinonia, c'est de savoir partager. Mes biens ne m'appartiennent pas, mes biens appartiennent au Seigneur. Je ne suis pas propriétaire, je suis juste gestionnaire de ce que le Seigneur a bien voulu m'accorder. Et donc, dans mon cœur, par la communion avec Dieu, je donne au Seigneur et je donne aux autres. Je vais vous le montrer dans les textes ici. Ça n'apparaît pas, le mot n'est pas toujours traduit par communion, mais c'est le même mot grec qui est koinonia. Vous êtes prêts? Je vous lis les textes. En 2 Corinthiens 8,4, il est écrit « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens, en parlant des Macédoniens, pour, vous savez, la famine qu'il y avait à Jérusalem, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistant destiné aux saints. » De prendre part. C'était un cœur qui avait le désir, malgré leur pauvreté, dit l'apôtre Paul, les Macédoniens, de prendre part à la détresse de quelqu'un d'autre. D'avoir en commun leur détresse. Autrement dit, l'amour a une compassion pour le besoin des autres et a envie de le combler. Nous vivons dans un confort tel qu'on ne s'aperçoit même plus de tout ce que nous avons et de tout ce que nous pourrions donner pour nourrir le monde. Nos poubelles occidentales pourraient nourrir, on le dit, le tiers-monde. Nous ne nous rendons plus compte du confort dans lequel nous sommes. Mais la Bible dit ici et nous engage à prendre part à la détresse des autres. En Hébreux 13, 16, il est écrit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Vous voulez faire plaisir à Dieu ? Eh bien, exercez la libéralité, parce que le mot ici, c'est koinonia. La communion avec Dieu amène le cœur du croyant à être généreux. La libéralité, c'est la générosité. Et en 2 Corinthiens 9,13, il est écrit « En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons. » Et là, le mot « don », c'est « koinonia » envers eux et envers tous. Vous avez compris l'idée. C'est que le texte grec souligne que donner, c'est d'avoir en commun, c'est par amour de Dieu et par amour des frères et sœurs dans le besoin. Autrement dit, ne donnons pas si nous n'avons pas l'amour de Dieu dans nos cœurs. La vraie motivation de donner, ça vient de Dieu. Donc, laissons-nous sonder par Dieu pour savoir dans quelle mesure je donne, et dans quelle mesure j'aime Dieu, et dans quelle mesure j'ai peut-être compris ce que c'est que de donner selon Dieu. En Romains 15, 26, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution koinonia en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Vous avez compris que l'amour, ce n'est pas simplement avoir une fleur au bout de son fusil, ce n'est pas simplement un sentiment ou vivre dans le sentimentalisme dans lequel parfois les chrétiens nous vivons, mais c'est d'aimer de façon pratique parce que nous avons quelque chose en commun. Et parce que nous vivons en communauté, normalement, de pensée, de vie et d'action, nous partageons ce que Dieu nous a donné pour le bien des autres. Alors, on pourrait dire beaucoup plus là-dessus, n'est-ce pas? Un troisième aspect que j'aimerais vous donner, c'est 1 Corinthiens 12. Pourquoi? Alors, bon, j'ai composé ce message depuis des années, j'avais mûri cela, je voulais vous le partager, mais c'est l'exercice des dons. Je vous donne une autre anecdote. Excusez, je vais parler parfois un petit peu de mes expériences, parfois heureuses et parfois plus difficiles. Je me souviens avoir été dans une église missionnaire où on ne me donnait aucune tâche à accomplir. J'étais soi-disant responsable des traités d'évangélisation, même j'étais surveillé, contrôlé, et je ne pouvais même pas choisir les traités. Ça a été une telle souffrance en moi. Je me dis, c'est ça la volonté de Dieu ? Excusez-moi, mais parfois dans la direction, il y a une telle stupidité parce qu'on n'est pas capable de comprendre que Dieu a donné des dons aux uns et aux autres. L'amour, c'est de se réjouir du don des autres. L'amour, c'est de voir les dons des autres s'épanouir. Je n'ai pas ce don-là, mais l'autre là, mais gloire à Dieu. C'est la gloire de Dieu qui compte. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc l'amour de Dieu, ça consiste à se réjouir de voir les dons des autres s'exercer et s'épanouir. Vous avez ici, je vous le dis, une place dans cette église. Il y a une place pour chacun parce que vous avez un don du Seigneur. La Bible dit que vous avez au moins un don. Si vous êtes né de nouveau, vous avez au moins un don. Mais ne le cachez pas, s'il vous plaît. Nous en avons besoin les uns des autres parce qu'on est un corps. Et le corps vit en harmonie et en communauté parce que tous les membres sont liés les uns aux autres. On est interdépendants. Et l'amour, ça consiste à laisser voir ses dons, bien sûr. La personne doit se laisser baigner, imprégner de l'amour de Christ pour exercer son don, parce que c'est pas, il n'y a aucun exercice d'un don spirituel, s'il est vraiment spirituel, qui n'est pas baigné de l'amour de Dieu. Je répète, il n'y a aucun exercice d'un don spirituel, s'il est vraiment de Dieu, qui peut s'exercer sans l'amour de Dieu. Le véritable don spirituel s'exerce toujours dans l'amour de Dieu, parce qu'il s'agit de don de l'esprit pour la contribution, pour l'utilité commune à la gloire de Jésus-Christ. C'est donc que si vous avez un don qui est étouffé, c'est que peut-être vous avez perdu la communion avec Dieu. On ne perd pas le salut, je ne le crois pas. Je crois à la sécurité éternelle du croyant. Il me semble que c'est clair dans les Écritures, sans être prétentieux. Mais par contre, on peut perdre la communion avec Dieu. Et quand on perd la communion avec Dieu, ça nous arrive à chacun. Hein. Qu'est-ce qu'on est malheureux ? Parce qu'on perd tout. Et on perd l'amour de Dieu dans nos cœurs. Mais le don spirituel que vous avez, ne l'étouffez pas. C'est un don et des talents sanctifiés par Dieu. Faites-en profiter les autres. Vous avez des richesses enfouies. Vous êtes riche dans le Seigneur. Vous avez tout pleinement en Christ. Vous avez une suffisance, enfin, vous comprenez, une suffisance en Christ extraordinaire. Mais remplissez-vous de l'Esprit de Dieu et partagez cette richesse avec d'autres. Alors peut-être notre Église n'est pas toujours... sage pour discerner les dons, pour j'aime pas le mot recruter, mais moi je crois personnellement, on peut pas trop parler là-dessus ce matin, peut-être on en reparlera plus tard, que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est utilisé par Dieu. D'une manière ou d'une autre, la puissance de l'amour de Christ déverse son cœur et il est utile aux autres. Un autre aspect que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que l'amour s'exerce dans un ministère les uns envers les autres. L'expression dans le grec et dans l'original comme dans la traduction, dans le Nouveau Testament, est fréquente. Alors, oui, c'est ça, c'est 35 fois, je l'ai mis dans mes notes, les uns les autres, ou l'un l'autre, ou réciproquement. Je vous donne quelques aspects. La Bible dit « aimez-vous les uns les autres ». Je crois qu'il n'y a personne ici qui est contre cette parole, n'est-ce pas ? Vous êtes tous d'accord avec ça ? Oui, vous êtes tous, qu'il faut s'aimer les uns les autres, n'est-ce pas ? Mais regardez ce que dit la Bible. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Tiens, là ça devient plus pratique. La Bible me demande de ne pas juger mon prochain. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire les faibles, les forts. Accueillez-vous donc les autres. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir ? Ça veut dire faire une place dans son cœur pour quelqu'un d'autre, et commencer à prier pour la personne. Accueillir, c'est peut-être d'abord prier pour la personne. Dans quelle mesure nous prions les uns pour les autres ? Nous sommes un noyau le mardi soir, mais dans la semaine, est-ce que nous prenons soin de prier pour les frères et sœurs ? La Bible dit prier sans cesse et prier pour tous les saints. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit aussi, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, toutes les églises de Christ vous saluent. La salutation est une marque de respect. C'est une marque d'attention avec quelqu'un d'autre. C'est de faire attention à l'autre. Aussi, la Bible dit, attendez-vous les uns les autres. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. C'était l'église de Corinthe qui avait toutes sortes de difficultés. Ils mangeaient, certains s'empiffraient, excusez-moi le terme, et d'autres n'avaient rien à manger. C'est ça l'amour fraternel. Puis ils ne s'attendaient pas. Puis mélanger le repas fraternel avec la communion du Seigneur, la table du Seigneur. Ils ne savaient plus faire la distinction entre un moment où on se met en communion avec Dieu, où on favorise l'esprit de Christ pour partager sa souffrance à la croix et les bénéfices que l'on a suite à la croix et l'espérance qu'on a de son retour, avec un repas où certains mangeaient trop et d'autres n'avaient rien. Alors la Bible dit, attendez-vous les uns les autres, soyons respectueux les uns vers les autres. Apportons de la nourriture et partageons-la et veillons à ce que tout le monde a de quoi se nourrir. Supportez-vous les uns les autres. Alors ça ne veut pas dire, oh là là, je dois t'aimer, je te supporte, mais qu'est-ce que c'est difficile de supporter. C'est pas ça que ça veut dire. Supportez-vous les uns les autres, ça veut dire glisser son épaule sous le fardeau de quelqu'un pour le soulager. D'ailleurs, la Bible dit, portez les fardeaux les uns des autres. Pardonnez-vous réciproquement. Alors là, il y aurait tout un sujet, n'est-ce pas? De même que Christ vous a pardonné. Accueillez-vous, Christ vous a accueilli. Pardonnez, Christ vous a pardonné. Que la parole de Christ habite parmi vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Dieu veut que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment et que chacun de nous, nous soyons comme le chrétien de Béret qui vérifions tous les jours si ce qu'on nous enseigne est vrai. Est-ce que nous avons l'amour de la parole? Est-ce qu'on a un plan de lecture? Est-ce que nous passons du temps dans la lecture de la parole? C'est bien de prier, hein? Vous savez, Luther disait, bien prier, bien étudier, c'est bien prier, c'est bien étudier. Il faut passer du temps dans ce livre. C'est ce livre-là qui est notre lumière sur notre sentier. Ce ne sont pas nos émotions, notre propre volonté, notre propre intelligence, nos raisonnements. C'est qu'est-ce que dit Dieu? C'est ça qui fait autorité dans notre vie. Laissons-lui toute la place, édifions-nous les uns les autres, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité aux bonnes œuvres. Parfois, on n'ose pas dire à quelqu'un, il me semble que ta flamme est un peu éteinte. Ranime la flamme parce que ton amour fraternel diminue. C'est difficile d'aller dire ça, mais n'empêche pas moins que par l'Esprit de Dieu, on peut discerner si un frère ou une sœur est rempli d'amour. Et on peut veiller et dire, là, tu t'es refroidi, mon frère et ma sœur. Ton oasis d'amour ne coule plus, là, on n'en bénéficie plus dans l'Église. Peux-tu revenir vers le Seigneur? Alors faisons-le avec amour, mais peut-être de temps en temps, on doit oser se dire les vérités. La Bible dit, exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure. J'aimerais vous poser une question. Quelle est la dernière fois que vous avez reçu quelqu'un chez vous? Je ne parle pas des familles, je parle d'un célibataire inclus. Quelle est la dernière fois que vous avez reçu quelqu'un chez vous et même lui avez fait un repas, pourquoi pas? Ma femme et moi, je vous donne une petite anecdote à nouveau, on a remarqué au Québec que plus on a eu d'enfants, moins on a été invité. Maintenant que nous avons moins d'enfants à la maison, vous pouvez nous inviter, vous savez. Ce n'était pas prévu dans mon message. La Bible dit, soyez pleins d'affection les uns les autres, par honneur, usés de prévenance réciproque. Prévenir, c'est déjà penser aux besoins de l'autre. C'est tellement aimer l'autre que si on voit un besoin, on est prêt à le combler avant même que la personne est consciente de cela. Alors voyez-vous, on a esquissé que quelques traits de l'amour réciproque les uns vers les autres. Mais est-ce que nous exerçons la charité ou c'est juste un bon sentiment que nous partageons le dimanche matin? Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, nous nous aimons les uns les autres. Ce n'est pas ça l'amour fraternel. C'est d'aimer en action et en vérité, et je dirais que ça doit être mesuré. J'ai à l'esprit deux pensées, deux illustrations. La première, quand on regarde la cordée des alpinistes, vous savez qu'ils s'attachent les uns aux autres. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Certaines escalades, n'est-ce pas, prouvent que si vous tombez dans une crevasse, mais vous êtes attaché à quelqu'un en haut et en bas, on vous récupère. Donc, la cordée des alpinistes, c'est la survie de tous et chacun, quelque part. Si un dévisse, les autres tiennent. Et j'aimerais vous donner une petite expérience que j'ai eue au service militaire, encore service militaire. J'avais un lieutenant qui me persécutait parce qu'il savait que j'étais croyant. Je ne l'aimais pas particulièrement, je vous le confesse. Et un jour, il nous a initiés au rappel. Et qui a été désigné le premier à essayer la corde que le lieutenant tenait? Moi-même. Et donc, ma vie dépendait de mon lieutenant là-haut, en dessus de la montagne. Il tenait comme ça Ah, il disait, Vicky, allez-y. Et moi, je devais descendre, mais j'étais tellement crispé à la corde que je ne pouvais pas descendre. Il fallait se laisser glisser, mais j'étais là. Et j'ai compris que ma vie dépendait de quelqu'un. Et c'était celui qui était patron en ma faveur. Donc, j'ai dû apprendre à croire que des fois, on peut dépendre des autres, même si on ne les aime pas particulièrement. Mais vous savez, bien sûr, dans l'Église, ce n'est pas pareil. Mais Dieu peut nous amener à un moment donné dans nos vies à dépendre de quelqu'un d'autre, dans une certaine mesure, évidemment. Ce n'est pas une question peut-être de mort et vie. Mais est-ce que nous sommes capables, avec humilité, d'accepter qu'on a peut-être besoin de conseils de quelqu'un d'autre, qu'on a besoin d'être enseigné par quelqu'un d'autre, qu'on a besoin les uns les autres, hein, moi le premier, de l'amour fraternel, de la vérité spirituelle. Nous vivons les uns des autres des choses dans le Seigneur. Moi, j'aimerais de temps en temps qu'il y ait un partage à l'Église, où on partage la vie du Seigneur en nous. Dans notre église à Québec, le dimanche soir, c'était toujours différentes séries de messages, mais il y avait un temps de partage et les gens se levaient les uns après les autres pour dire ce que Dieu avait fait dans la semaine. Mais c'était vivant. Dieu est vivant. Alors partageons avec amour ce que Dieu fait, parce que peut-être que notre expérience peut aider quelqu'un d'autre. Prenons le cordage de l'amour de Christ et serrons fort, parce que nous avons besoin les uns des autres. Le deuxième aspect de la koinonia, c'est l'unité. Et après on parlera de la loyauté. Il y a une plaidoirie de l'apôtre Paul pour l'unité, et je vous invite à tourner en Philippiens. En Philippiens, chapitre 2, et versets 1 à 4. Moi, c'est un passage qui me bouleverse constamment. Chaque fois que je lis ce passage, je suis bouleversé du cri du cœur de l'apôtre Paul. Pourtant, l'église aux Philippes est une église modèle, que l'apôtre Paul chérit particulièrement. Et voilà ce qu'il dit. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, c'est Paul qui plaide, et je vais être consolé, je vais être soulagé. S'il y a quelque communion d'esprit, koinonia, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, vous vous rendez compte, c'est un bel avocat qui plaide là. Rendez ma joie parfaite. » C'est un ordre ici. C'est un commandement, c'est un impératif, ayant un même sentiment. C'est l'appel de Dieu au travers du cœur de l'apôtre Paul, des entrailles, je dirais, l'apôtre Paul, à un appel à l'unité. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité qui fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et si on n'aurait pas compris, l'apôtre Paul décrit ensuite l'humilité de Jésus, du verset 5 jusqu'au verset 8, toutes les étapes de son humiliation dans son incarnation, descendu du ciel et vivant sur terre. Mais je peux vous dire que si on lit sérieusement ce passage, on doit s'humilier devant Dieu. Il n'y a pas de place pour une division dans l'Église. Vivre ça, c'est terrible. C'est un divorce, c'est une blessure, c'est une chose profonde dont on a vraiment du mal à guérir. Toute rupture relationnelle chez les croyants. John MacArthur, vous savez que c'est un de mes commentateurs préférés de la Bible, il a dit, une fois dans un message que j'ai entendu à Québec, une des plus grandes douleurs du serviteur de Dieu ou du croyant, c'est la rupture relationnelle. Parce que nous avons des fibres d'amour les uns envers les autres. Nous sommes tissés les uns envers les autres. Et la preuve, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Nous prenons soin, nous veillons et nous prenons soin les uns des autres. Et donc, lorsqu'il y a incompréhension ou blocage ou rupture, il y a une douleur dans le corps de Christ. L'unité et la beauté de l'Église. Voyez comme il s'aime. J'ai marqué... L'unité a pour équation l'humilité plus l'amour plus la vérité. Quelqu'un a dit, on ne peut pas sacrifier la vérité sur l'autel de l'amour. La véritable unité est toujours basée sur la vérité. Et tant que possible, ayons la même doctrine. Nous devons avoir une unité d'action et de fondement de la foi. C'est très important cela. Et l'unité est la puissance de l'Église. Je répète, l'unité est la puissance de l'Église. Tout seul faire le ménage à l'Église, c'est un peu long. Mais quand on est 10 à le faire, c'est très rapide. Quand on est uni dans une action, d'abord, on soulage les autres, et il y a une puissance dans l'unité. J'aimerais vous donner l'illustration suivante. J'étais passionné. Après, j'ai fait à un moment donné un travail sur l'énergie solaire. J'ai remarqué le four d'Odeio. Vous êtes déjà allé à Odeio, peut-être quelqu'un ici, à côté de Font-Romeu, d'accord? Vous savez combien il y a d'heures d'ensoleillement à Font-Romeu, dans la région? Ça fait rêver. 3000 heures de soleil par an. Donc, vu que c'est ensoleillé, ils ont fait un four solaire avec des panneaux, n'est-ce pas, des miroirs, qui cherchent l'angle maximum du soleil pour refléter la lumière du soleil au centre, à peu près une cible de 40 cm. Et en l'espace de quelques secondes, la température remonte, vous savez à combien? 3500 degrés. Parce que tous les miroirs cherchent l'angle, n'est-ce pas, du soleil pour refléter dans le four. Et ça maximise l'énergie. Il y a une telle puissance qu'on dit que ça devient, j'ai lu ça sur Internet, revient à concentrer l'énergie de 10 000 soleils. Alors, j'ai marqué en application, quand tous les enfants de Dieu captent au maximum la lumière divine et convergent au même point, il y a une puissance du témoignage extraordinaire. Quand les chrétiens sont ensemble et sont remplis les uns du Seigneur, il y a une puissance de témoignage. Voyez comme ils s'aiment. Un troisième aspect, et vous avez compris que cet exposé n'est pas exhaustif parce qu'on pourrait dire beaucoup d'autres choses, c'est la loyauté. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce qu'on vit dans un monde qui manque de loyauté dans les relations, même professionnelles. Combien de gens sont venus à moi ou combien j'ai entendu de gens se plaindre de la tromperie de collègues au travail? Qu'est-ce que la loyauté? Alors, je suis allé voir le dictionnaire, ça dit ceci, c'est la qualité, le caractère de quelqu'un, de quelque chose qui est honnête, loyal. Faire preuve de loyauté, par exemple, envers ses amis, qui obéit aux lois de l'honneur, de la probité, de la droiture, un ami loyal. Je veux dire, bon, c'est un peu la palissade. Il y a un exemple dans la Bible, c'est l'exemple de David. David était loyal à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été oint comme roi, alors qu'il y avait un autre roi. Comment il s'appelait l'autre roi? Saül, qui était un roi qui a désobéi, qui s'est détourné de Dieu et que Dieu a rejeté. Mais il s'est attaché à sa royauté. Mais Dieu l'a rejeté. Et vous savez ce qu'a fait David? Un jour, il était dans une caverne. Il était recherché par Saül qui voulait le massacrer. Et Saül est entré dans la caverne. Et David était au fond de la caverne avec ses hommes. Il aurait pu tuer Saül. Et vous savez ce qu'il a dit? Malheur à moi si je touche à loin de l'Éternel. C'est ça la loyauté. C'est ne pas toucher à loin de l'Éternel. Qui sont les loin de l'Éternel? Tous les enfants de Dieu. À partir du moment où vous avez l'Esprit de Dieu, vous êtes loin de l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous demande les uns les autres de nous respecter et d'être loyaux les uns vers les autres. Il y a un mauvais exemple. Il s'appelait, peut-être vous allez le retenir, Achitophel. C'était le conseiller de David qui a viré, qui a été déloyal envers David et qui est allé vers Absalom. Et qui a donné des conseils à Absalom qui finalement n'ont pas été suivis. Vous savez ce qu'il a fait? Il a scellé son âne, il est allé se pendre. Tellement il était frustré, on n'a pas suivi mon conseil. Mais il est arrivé à un tel point de colère contre lui-même, un suicide, parce qu'il avait été déloyal d'abord envers son ami David. Si nous sommes appelés à nous aimer d'un amour fraternel sincère, c'est l'amitié, nous devons avoir cette amitié qui dure. Et une des plus beaux joyaux de la vie chrétienne, c'est d'avoir des amis. Avez-vous un ami, des amis, qui au travers des années sont restés des amis pour vous? C'est merveilleux cela. Je dis ça parce que je veux témoigner, j'ai des amis depuis des années, des décennies. On se voit pas parfois pendant des années, on se retrouve, c'est comme si on s'est quitté la veille, parce qu'on a le même amour fraternel, la même amitié qui a duré. C'est extraordinaire d'avoir de l'amitié et de la loyauté. Je vais vous donner une autre anecdote. Qui c'est qui aime voir le Tour de France ici à la télé? Allez, avouez-le, moi j'aime ça. Il n'y a que des amateurs de vélo ici, il y a si peu. Oh, il y a des paysages extraordinaires. Enfin, passons. En 1934, vous n'étiez pas né, moi non plus, rassurez-vous. Il y avait un cycliste qui s'appelait René Vietto. C'est une histoire connue. Il avait 20 ans. Mais il faisait partie de l'équipe d'un chef qui s'appelait Antonin Magne. Peut-être les plus anciens, vous vous souvenez de lui. Qui était un coureur excellent et qui était programmé pour gagner le Tour de France. D'ailleurs, il l'a gagné. Mais le pauvre bonhomme, il a eu plusieurs accidents dans les Pyrénées. Et un jour, il a cassé sa roue. À l'époque, il n'y avait pas les suiveurs en voiture avec les vélos, les roues, etc. Vous savez ce qu'a fait René Vietto? Alors qu'il avait battu son chef, qu'il avait déjà passé le col d'Aspé. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les Pyrénées voir le col d'Aspé. C'est fort, hein, de monter en vélo. Il a redescendu pour apporter sa roue à son chef. Et lui a attendu d'être dépanné. Et son chef est arrivé. Lui, René Vietto, il a fini 5e du Tour de France. Et c'est vraiment Antonin Magne, le chef d'équipe, qui a fini 1er Tour de France. Ça a créé une certaine polémique. Mais ça montre la loyauté d'un équipier. Et j'aimerais vous dire que notre chef ici, c'est Jésus-Christ. Et quand nous sommes loyaux envers Jésus, nous sommes prêts à céder pour que notre chef gagne. Le vainqueur ici, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les anciens, ce n'est pas la réputation d'une église. Ça, ce serait de l'orgueil mal placé. C'est Jésus-Christ. Que Jésus soit vraiment le chef de cette église. Est-ce que nous avons cette crainte de laisser toute la place au Seigneur Jésus? Que Jésus seul soit glorifié ici, qu'on ait assez d'humilité pour voir Jésus en nous et le laisser paraître, et qu'on le laisse paraître, parce que Jésus veut paraître en nous et il est plein d'humilité et de grâce. Donc c'est lui le vrai chef. Est-ce que nous sommes de tels coéquipiers? Est-ce que nous vivons dans un tel esprit d'équipe où Jésus est le chef et nous sommes prêts à n'importe quel sacrifice pour que lui gagne? C'est pas important que l'un ou l'autre gagne ici là. C'est Jésus qui doit gagner. C'est lui le vainqueur. Si nous sommes vaincus, c'est bon pour nous, mais lui doit être vainqueur. J'aimerais faire rapidement des applications pratiques. Et ça ne sera pas long, d'accord? Regardez pas votre montre, ce ne sera pas long. Trois applications. Le respect les uns des autres par rapport à la langue. Par la grâce de Dieu, je le dis parce que j'ai crainte de dire ça, mais ça fait partie. Je remercie le Seigneur que dans notre Église, il y a un bon esprit. Je trouve que dans notre esprit, dans notre église, il y a un esprit de bâtisseur, de constructeur, un esprit positif qui cherche à aller de l'avant. Et vous faites partie de cet esprit-là, et je suis très heureux d'être parmi vous comme pasteur. Et continuons à avoir cet esprit-là de bâtir les uns avec les autres. Mais il y a quand même toujours le danger de la langue. La langue, c'est un tout petit instrument, nous dit Jacques, dans l'épître de Jacques, qui peut faire beaucoup de mal. Un jour, je crois que je vous l'ai dit, il me semble, bon, je me répète, excusez-moi, dans cette anecdote, j'ai entendu un juif, pasteur messianique à Chicago, qui avait calculé par le nombre de mots relevés dans le livre de Mein Kampf, que Hitler avait écrit en prison, combien chaque mot avait tué des milliers de juifs dans les camps de concentration, pour montrer la puissance de la parole écrite ou parlée. La langue est un petit instrument. La Bible dit de même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est incroyable cela. J'aime beaucoup l'histoire. À un moment donné, à la télévision, il y avait toute une série. Ils ont pris des films, n'est-ce pas, des documentaires, ils ont mis en couleur de tous les pays, la Russie, l'Allemagne, la France. Alors c'était très douloureux de voir ça, parce que c'était les films de la guerre. Mais on montrait Hitler en train d'haranguer les foules. Je me suis dit, mais et tous les gens à Hitler, et des milliers de gens. Vous vous rendez compte le pouvoir juste de la langue? Derrière ça, qui c'est qui y a? On le sait, hein, c'est le diable. Alors ne donnons pas notre langue au diable, parce qu'il voudrait prendre ce petit instrument et détruire. C'est subtil, la langue. Il faut réfléchir avant de parler. Et parfois on parle trop vite. Et c'est parfois mon cas. Mais il faut se repentir. La Bible dit, la langue est placée comme parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Vous vous rendez compte? La Bible dit que Satan utilise la langue pour l'enfer. Les fausses doctrines, vous avez compris tout ce que je veux dire, et les meurtres et les fausses religions qui amènent à l'enfer. Et la Bible dit, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Ça veut dire que chacun nous avait une langue, si je comprends bien. Hein? Mais c'est que Dieu qui peut la dompter. Vous ne pouvez pas. Il n'y a que Dieu qui peut le faire en vous et en moi. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc nous devons apprendre à ne pas parler mal les uns des autres. Jacques dit notamment, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère et qui juge son frère parle le mal de la loi et juge la loi. Car si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, et c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Comme a dit quelqu'un, lorsqu'on pointe du doigt son prochain, il y en a trois qui nous regardent. Donc nous devons veiller à ne pas nous pointer du doigt. Ça ne veut pas dire faire abstraction de la vérité et ne pas dire la vérité à son prochain s'il est dit avec amour. Mais on ne doit pas parler mal. La bonne façon d'éviter les commérages, la médisance, c'est d'abord de parler au Seigneur. C'est un exercice. Avant de parler aux autres, de quelqu'un d'autre, d'abord parlons au Seigneur. Et souvent le Seigneur nous fait voir autrement la personne et on commence à changer notre langage envers une personne. La langue est un mal, mais la médisance et la calomnie sont des péchés. Dire quelque chose pour faire du mal, même si c'est vrai, c'est un péché. Inventer quelque chose pour faire du mal, c'est un péché. Mais parfois, dans des conflits ou dans des affaires de croyants, malheureusement, il peut y avoir la langue qui détruit. Ne n'utilisons pas notre langue pour détruire, mais utilisons notre langue pour construire. Et soyons des bâtisseurs devant l'Éternel. Un deuxième aspect, si vous me permettez, c'est la fidélité. Je veux dire, pourquoi parler de loyauté? Alors on a parlé de la langue, du respect mutuel, la fidélité. Parce que la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénité, la fidélité. Or le mot fidélité ici dans le grec, c'est pistis, qui pourrait traduire souvent, il est traduit ailleurs, par la foi. Je vais vous dire une chose, on est fidèle dans le service dans lequel on s'est engagé devant Dieu, parce qu'on est fidèle devant Dieu. Quand on n'est pas fidèle dans un engagement de ministère, c'est qu'on n'est pas, on n'a pas la foi qu'on devrait avoir pour servir le Seigneur. Et c'est un manque de fidélité envers Dieu. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Le mot même fidélité, j'ai fait une recherche, ça pourrait être traduit aussi par l'engagement. Voyez-vous, le fruit de l'esprit, c'est l'engagement. On pourrait dire l'engagement fidèle. Mais si vous servez le Seigneur et vous avez décidé de servir le Seigneur et vous avez pris une tâche, c'est devant Dieu que vous êtes responsable et que vous serez redevable un jour. Alors faisons-le avec crainte et tremblement, mais avec fidélité. C'est beau quand nous avons un amour fidèle envers Dieu et qui se voit aussi dans l'amitié qu'on va avoir les uns avec les autres. La Bible dit ceci, un verset qui est puissant dans l'amour fraternel. C'est presque la fin, rassurez-vous. Il est écrit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ça veut dire que parfois le croyant peut avoir justement des mensonges dans son cœur et a besoin d'être purifié de ce qu'il vit qui n'est pas correct. Et voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Et le mot sincère ici pourrait être traduit sans hypocrisie. Un amour fraternel, philadelphia en grec, philéo aimé, adelphos le frère, l'amour fraternel. C'est-à-dire on est dans une famille où on voit son frère et sa sœur dans le Seigneur comme un frère et une sœur d'une même famille. Il y a l'esprit de famille dans la communion fraternelle. On ne vit plus pour soi-même, lui ne vit pour lui-même, on vit pour la famille. Est-ce qu'ici on a une identité de famille? Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Le cœur, c'est le centre de la vie physique, mais aussi la vie spirituelle, de tout votre cœur. Autrement dit, mettez tout votre cœur à vous aimer les uns les autres. C'est ce que dit Pierre. C'est Jésus qui parle là. C'est inspiré de Dieu. Autrement dit, on doit donner tout son cœur. Et au moment où on veut se relâcher, il faut se reprendre et dire, non Seigneur, je veux donner tout mon cœur. Jésus a dit à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Alors c'est vrai qu'on ne prêche pas souvent sur un péché qu'on peut avoir dans sa vie. Moi, le Seigneur m'en a convaincu un jour, l'incrédulité. Et on ne prêche pas trop non plus sur l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie est un péché. L'hypocrisie, c'est cacher la vérité, se dire une demi-vérité. C'est faire croire à quelqu'un autre chose que ce qu'on est vraiment ou de ce que l'on sait. C'est subtil, mais l'hypocrisie est un péché. Et l'hypocrisie se voit à l'œil nu. Jésus a dit, au travers de l'apôtre Jacques, « La sagesse d'en haut est premièrement pure et pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Alors, premièrement, ne soyons pas le dimanche une face et dans la semaine une autre face, mais soyons vrais, surtout, les uns vers les autres, devant Dieu, bien sûr, et les uns vers les autres. Et la Bible dit que la charité soit sans hypocrisie. C'est Paul qui le dit en Romains, chapitre 12, verset 9. Je l'ai déjà dit, mais des fois, nous nous réunissons le dimanche et on se salue, ça va, oui, ça va, ça va, ça va. Vous savez, les gens, le samedi, ils se réunissent, on les appelle les sabbatistes. Hein? Mais nous qui nous réunissons le dimanche, je pense qu'on devrait nous appeler les sabbatistes. Ben, ça va toujours, les sabbatistes. Ça va, oui, mon frère, ça va, même si ça ne va pas. Mais soyons honnêtes, les sabbatistes, quand ça ne va pas, disons, non, ça ne va pas aujourd'hui. Soyons transparents les uns vers les autres. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais soyons vrais. Quand on est vrai, on est dans la lumière. Et par la lumière, nous voyons encore plus de lumière. Bannissons toute forme d'hypocrisie, toute forme de mensonge. Soyons vrais. Soyons purs devant Dieu, mais devant les uns et les autres aussi. Ça demande du courage d'être vrai. Bannissons l'hypocrisie de nos vies, car c'est un entachement à la vraie communion. Alors je vous ai donné quelques traits esquissés, quelques traits de la koinonia. Et humblement, je vous demande de continuer le tableau, parce qu'il y a beaucoup de choses à ajouter. Mais au moins de ce que vous avez entendu, la communion, il y a un défi personnel. C'est dans quel est le degré de ma communion, de la communion que j'ai avec le Seigneur. C'est fort, c'est moyen, c'est faible. Réfléchissons un instant, parce que je ne voudrais pas que ce soit juste, voilà, on a entendu cela, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie? Réfléchissons un instant. Est-ce que vraiment je suis conscient d'être en communion avec le Seigneur ou non? Et dans quel degré, dans quelle mesure? Et deuxièmement, une autre question, vous avez compris, dans quelle mesure, dans quel degré il y a une communion fraternelle avec les autres. Demandons au Seigneur de nous aider et continuons à nous aimer les uns les autres. Amen. Prions. Notre Père Céleste, tu nous as rappelé ces grandes vérités qui ne sont que des rappels dans nos vies de ce que tu nous aimes, que tu veux que nous nous aimions les uns les autres, que tu veux que soyons pleins d'amour les uns les autres, respectueux, avec un ministère d'amour les uns vers les autres, d'exercice des dons les uns vers les autres, d'être unis toujours sous la puissante main de Dieu et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, d'être loyal les uns vers les autres, plein de vérité, d'unité, et sans langue, sans médisance, sans calomnie, mais plein d'amour sincère et de vérité. Merci de l'amour fraternel que tu as placé en nous. Seigneur, nous ne voulons pas terminer avec quelque chose de négatif, mais nous nous réjouissons dans notre assemblée de ta présence. Nous nous réjouissons de l'amour qu'il y a entre nous. Et nous voulons, Seigneur, que cet amour augmente et ne cesse d'augmenter et de te glorifier. Nous te le prions dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.